Radio Okapi.
Maisha bora.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Maïcha Bora, votre magazine de santé et bien-être sur Radio Capi, où nous vous parlons aujourd'hui des hépatites A, D et causes, symptômes et traitements. Marcel Ngomombala est à la présentation de ce numéro. William Lungamba sur la mise en onde sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Dans le chapitre des hépatites virales, après avoir parlé la semaine dernière des hépatites B et C, qui sont les plus fréquentes, nous allons aujourd'hui découvrir les autres formes d'hépatites virales, notamment les A, D et E. Elles sont moins fréquentes, mais elles existent bel et bien. Et comme vous allez le découvrir avec notre invité, le docteur Ngoma Patrick, gastro-entérologue et président du conseil d'administration de la Fondation Aurore, une fondation qui milite contre les cancers digestifs en RDC. Les hépatites A, D et E peuvent parfois donner lieu à des complications du foie. Commençons d'abord par l'hépatite A. Que faut-il savoir sur le mode de transmission de cette forme d'hépatite? Comment se manifeste-t-elle et quel est le traitement? Les réponses avec le docteur Ngoma Patrick.
Il faut retenir que l'hépatite A, c'est une maladie du foie, c'est une infection du foie par le virus qu'on appelle virus de l'hépatite A. Et généralement, il développe une forme qui est aiguë et de manière générale que l'organisme arrive à gérer. Il existe des formes où, de manière générale, on en guérit spontanément en fait, même s'il existe des formes qui passent à la chronicité et qui sont assez sévères. Alors comment on arrive à attraper cette infection? Généralement, la contamination, elle est oro-fécale. Tout le monde peut être infecté. Quand on dit une infection, une transmission oro-fécale, donc les mains sales, les aliments qui sont souillés, vous voyez, parfois, les gens prennent des crudités qui n'ont pas été bien lavées, avec de l'eau courante, les fruits des mers et tout le reste. C'est un risque, en fait. Donc, toutes ces personnes qui ne lavent pas régulièrement les mains peuvent attraper. Donc, de manière générale, la contamination, elle est oro-fécale, comme ça. Donc, à partir des aliments qui sont souillés, des mains qui ont été en contact avec des sels contaminés, puisque on retrouve le germe dans les sels. Mais il existe aussi des cas décrits de contamination par voie sexuelle. C'est généralement les personnes qui recourent à des pratiques sexuelles du genre fellation, sodomie, tout ça, avec des personnes qui sont infectées, donc un rapport sexuel par l'anus ou par la bouche, avec quelqu'un qui est infecté. Oui, on peut attraper l'hépatite A de la sorte, c'est décrit. On décrit aussi, même si c'est rare, des cas de transmission aussi par le sang, mais c'est vraiment des cas très rares. Et une fois qu'on est contaminé, on peut passer quelques semaines d'incubation sans développer aucun symptôme. Et que avant que les symptômes ne commencent, on devient déjà contagieux. Donc, avant de savoir vous-même que vous êtes malade, vous pouvez contaminer d'autres personnes et leur transmettre le virus de l'hépatite A. La maladie commence de manière générale comme une grippe. Aussi avec des douleurs musculaires, de la fatigue, même si dans plus de la moitié des cas, on peut avoir un ictère, donc une jaunisse qui vient chasser la fièvre en fait. Parce qu'on commence avec une grippe, de la fièvre, et quand la fièvre tombe, maintenant, on développe un ictère, donc une jaunisse. Dans les symptômes, il y a des signes digestifs, en fait, de la diarrhée, des vomissements. D'ailleurs, c'est ça qui donne la puce à l'oreille pour quelqu'un qui a de l'ictère avec de la diarrhée, des vomissements, donc des signes digestifs. On pense très vite à l'hépatite A. La maladie évolue pendant quelques semaines, presque 4 semaines. De manière générale, on en guérit sans aucun médicament. On n'a pas besoin d'un traitement particulier, même s'il existe des formes qui sont sévères, qui peuvent nécessiter qu'on puisse hospitaliser même le patient pour essayer de prévenir la mort, quoi. Parce que les formes sévères, c'est celles qui donnent une insuffisance hépatique, une hépatite fulminante.
Ce sont donc particulièrement des signes tels que jaunisse, diarrhée ou vomissement qui peuvent amener le médecin à suspecter une hépatite A. Mais on peut aussi faire des examens sanguins pour rechercher la présence des anticorps. La maladie peut disparaître soit d'elle-même ou soit le patient est soumis à un traitement ambulatoire, sauf lorsqu'il s'agit d'une forme sévère. Dans ce cas, le malade devra être hospitalisé.
Le dépistage, donc, il n'est pas en fait systématique, hein. C'est lorsque le médecin suspecte déjà ce diagnostic sur base des symptômes qu'il leur venait d'évoquer, qui peut rechercher les anticorps que l'organisme produit, parce qu'une fois qu'on est infecté, l'organisme produit des anticorps dirigés contre l'hépatite A, donc des IgM dirigés contre l'hépatite A, qui sont efficaces pour détruire ce virus et qui sont efficaces pour prévenir une prochaine infection. Alors, lorsque le médecin suspecte, il peut demander, de rechercher les anticorps et confirmer le diagnostic. Le traitement est symptomatique. C'est rare, comme je disais, qu'on arrive à hospitaliser quelqu'un parce qu'il a fait une hépatite aiguë, même si c'est des cas qui existent, mais qui sont fort rares. De manière générale, les patients peuvent être traités en ambulatoire parce que les formes ne sont pas assez sévères. Mais c'est impossible de savoir qui va faire la forme aiguë, la forme sévère, la forme fulminante et qui va faire la forme bénigne. C'est pour cela qu'on recommande carrément la prévention. Et on recommande la prévention. Il existe un vaccin qui permet de prévenir cette infection de l'hépatite A. Généralement, c'est un vaccin qui est combiné, qui permet à la fois de prévenir aussi bien l'hépatite B que l'hépatite A.
Et les vaccins, on les trouve chez nous?
Assez difficilement. Il y a beaucoup plus la forme qui ne prend en compte l'hépatite B, mais celle qui prend à la fois l'hépatite A et B est quand même assez difficile à trouver.
Pour ce qui est de l'hépatite D, elle est plus dépendante de l'hépatite B, indique notre expert. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle une co-infection. Cette co-infection est souvent dangereuse parce qu'elle peut conduire rapidement à un cancer ou une cirrhose du foie. Pour notre expert, il faudra en principe chercher à dépister l'hépatite D chez toute personne souffrant de l'hépatite B. Malheureusement, cela n'est pas souvent le cas. S'il est vrai que grâce à la vaccination contre l'hépatite B, il y a de moins en moins de cas d'hépatite D, cependant, il est toujours souhaitable de dépister cette maladie parce que selon notre expert, 5% des personnes qui souffrent de l'hépatite B présentent généralement une co-infection avec l'hépatite virale D.
L'hépatite D, c'est une infection du foie par le virus de l'hépatite D, comme on dit. C'est un virus qui a besoin obligatoirement du virus de l'hépatite B pour pouvoir se répliquer. Donc, s'il n'y a pas d'infection par le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite D, Delta, il est incapable de pouvoir se reproduire, se répliquer, et par voie de conséquence, l'infection ne peut pas exister. Bien entendu, il y a de plus en plus une diminution des cas d'infection par le virus de l'hépatite D et B, parce que c'est une co-infection, avec les programmes de vaccination qui sont en train de se généraliser. Mais il existe des pays, des zones où il y a une forte prévalence de cette co-infection. C'est essentiellement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, la Mongolie. C'est des zones où on décrit une forte prévalence de la co-infection hépatite B et D, même si malheureusement dans la culture des cliniciens, les gens demandent que rarement la recherche des anticorps de l'hépatite D. Mais en principe, toute personne infectée par le virus de l'hépatite B doit être dépistée par rapport à l'hépatite D, Delta. Parce que cette co-infection, c'est presque 5% des cas d'hépatite. 5% des patients ayant une hépatite B ont une co-infection. Cette co-infection représente la forme la plus sévère de toutes les hépatites. Donc l'hépatite B est assez sévère, l'hépatite C est assez sévère, ça expose au cancer. Mais maintenant, les gens qui ont à la fois l'hépatite B et D, on considère que c'est la forme la plus sévère, la plus grave, parce que ça peut faire une hépatite fulminante, déjà dans l'évolution aiguë, et dans l'évolution chronique, ça peut évoluer très vite vers la cirrhose ou vers le cancer. À titre illustratif, pour quelqu'un qui a une hépatite B, après 15 à 20 ans d'évolution, il peut faire un cancer. Alors que lorsqu'on a une co-infection, on peut faire un cancer en moins de 15 ans. Vous voyez, même une cirrhose en moins de 15 ans. Donc c'est quand même, il faut dépister ça assez tôt pour pouvoir proposer une prise en charge qui est adéquate.
Et pour ce qui est toujours de l'hépatite D, comme elle apparaît au dépens de l'hépatite B, les signes sont les mêmes en phase aiguë avec l'hépatite B, c'est-à-dire il y a l'ictère, la fièvre, des douleurs musculaires, de la fatigue, mais elle peut en cas de co-infection devenir chronique et c'est cette phase chronique qui est la plus inquiétante car la maladie évolue sans le moindre signe, ce qui peut après des années se compliquer par un cancer ou une cirrhose du foie.
Beaucoup d'infections virales commencent un peu comme une grippe, on a de la fatigue, douleur au ventre, alors que l'hépatite B ne donne pas autant de signes digestifs, genre diarrhée, vomissement, ou l'hépatite delta, donc D, ne donne pas non plus autant de signes digestifs comme diarrhée et vomissement. Voilà. Mais de manière générale, lorsque la co-infection devient chronique, le malade est asymptomatique. Il ne présente aucun symptôme. Et c'est ça qui est vraiment triste avec les hépatites. De sorte que la maladie est souvent découverte au décours d'une complication ou à tout hasard lorsque le patient a fait un dépistage, par exemple, ou que le médecin a proposé de comprendre pourquoi, par exemple, on a une perturbation des tests hépatiques, il propose de faire le dépistage de l'hépatite, on tombe sur le diagnostic, quoi. La co-infection, elle s'explique essentiellement par l'incap. En fait, c'est un virus qui est commensal du B. Il est incapable de se multiplier sans utiliser le matériel génétique du B. Il doit utiliser le matériel génétique du B pour pouvoir se répliquer. Et c'est ça qui le rend incapable de lui-même, de pouvoir infecter seul le malade et conduire une maladie jusqu'à son terme, donc à toutes ses complications et tout le reste. Il peut pas détruire le foie seul. Il faut qu'il agisse seulement avec le B. Quand quelqu'un entre en contact avec un microbe, quel que soit le microbe, il y a une quantité minimale infectante par rapport à chaque germe. Si cette quantité n'est pas atteinte, la personne peut entrer en contact avec un microbe donné et ne pas développer la maladie. Vous voyez. Et maintenant, cette quantité infectante peut être atteinte avec la réplication. Le microbe se multiplie. Il se multiplie lorsqu'on a une certaine charge bactérienne ou bien une certaine charge virale ou bien une certaine charge parasitaire. Maintenant, la maladie peut commencer. Donc voilà, c'est la même chose pour le virus de l'hépatite D. Une fois que il y a des gens qui attrapent seul le B, il y a des gens qui attrapent le B et le D au même moment, il y a des gens qui ont déjà l'hépatite B et quand ils entrent en contact avec l'hépatite D, puisqu'il y a déjà un lit pour ce virus, ils font la co-infection. Alors que quelqu'un qui n'a pas une infection par le virus de l'hépatite B, quand il entre en contact avec le virus de l'hépatite D, ben, il n'y aura rien qui se produira puisque le virus sera incapable de se multiplier et d'atteindre une certaine charge qui puisse développer la maladie au niveau de la personne infectée.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. Nous parlons aujourd'hui dans votre magazine des santé et bien-être sur Radio Okapi Maïcha Bora des hépatites A, D et avec notre invité, le docteur Ngoma Patrick. Il est gastro-entérologue et président du conseil d'administration de la Fondation Aurore, une structure qui milite contre les cancers digestifs en RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons parlé des symptômes ou signes des hépatites A et D. Elles peuvent se manifester par de signes tels que jaunisse, fièvre, fatigue et plus particulièrement par des signes digestifs pour ce qui est de l'hépatite A, car elle se transmet généralement par voie oro-fécale, c'est-à-dire en consommant de l'eau ou des aliments contaminés par le virus de l'hépatite A, alors que l'hépatite D se transmet généralement par voie sanguine. Le virus de l'hépatite D vit au dépens de celui de l'hépatite virale B, d'où ce qu'on appelle une co-infection hépatite B et D. Cette co-infection peut se compliquer en un cancer ou une cirrhose du foie. Selon notre expert, il a donc une impérieuse nécessité nécessité de privilégier la prévention de l'hépatite B par la vaccination, ce qui va permettre de réduire les cas de l'hépatite virale D chez les personnes à risque.
Il faut prévenir le B, et quand on prévient le B, de manière automatique, on lutte contre le D. Et même le traitement, en fait. Pour le traitement, il n'y a pas un traitement spécifique orienté vers le D. Si ce n'est s'attaquer au virus de l'hépatite B en donnant de l'interféron et les autres antiviraux qu'on utilise, genre tenofovir et tout le reste, contre le virus de l'hépatite B. Une fois qu'on s'attaque au virus de l'hépatite B, on se retrouve dans une situation telle qu'on est en train de traiter aussi l'infection par le virus de l'hépatite D. Alors, il arrive des gens, c'est assez fréquent, de rencontrer des gens qui ont une petite charge virale de l'hépatite B. Donc, on a tendance même à minimiser, parce que pour l'hépatite B, on ne traite pas quelqu'un qui a une petite charge virale. Donc, il y a des critères pour arriver à traiter. Donc, il faut dépasser un certain seuil. On parle de 20 000 unités internationales par litre, par exemple, pour le B. Lorsqu'on parle en termes de copies, être au-delà de 100 000 copies par millilitre pour pouvoir lancer le traitement avec des tests hépatiques qui sont perturbés et de la fibrose au besoin au niveau du foie. Alors, mais lorsque un patient a une charge virale, genre il a 100 unités internationales de virus, on ne va pas traiter, les transaminases sont tout à fait normales. Alors, il y a des patients qui ont une petite charge virale B, mais on se rend compte qu'ils ont une perturbation des tests hépatiques, qu'ils ont une hépatite qui est active, alors qu'ils ne devraient pas avoir l'hépatite active avec cette charge virale. Ça, c'est une puce à l'oreille pour voir le D. Puisque le D, une fois qu'il a trouvé le B, même s'il n'y a pas assez de B, lui, il peut en profiter pour se multiplier au maximum et développer la maladie, amener vers la cirrhose ou l'hépatite ou vers le cancer du foie. C'est dans des cas où on est appelé à traiter le B même si on a une petite charge virale du B pour prévenir justement ce cancer-là. Alors quelles sont les personnes à risque? Les personnes à risque, c'est essentiellement les gens d'abord qui ont l'hépatite B, mais beaucoup plus particulièrement ce sont les personnes qui se droguent avec les seringues et tous les restes. C'est plus ces gens-là qui utilisent les drogues IV, des gens aussi qui ont une infection par le virus du sida aussi, c'est des personnes à risque. Les personnes qui ont des rapports sexuels avec d'autres, enfin les hommes qui ont des rapports sexuels, les homosexuels quoi, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, c'est des personnes à risque pour cette co-infection. La transmission est pratiquement la même. Contact avec le sang, soit à travers la peau, parce qu'on s'est injecté, on s'est piqué avec une seringue de quelqu'un qui a été infecté, soit par voie sexuelle, à travers les rapports, tout le reste, ou à l'accouchement. C'est exactement les mêmes modes de contamination.
Qu'en est-il de l'hépatite E? Elle est la moins fréquente de toutes les hépatites virales. Elle se transmet de la même manière que l'hépatite virale A, c'est-à-dire par voie oro-fécale. Les personnes à risque sont celles qui ont une diminution de l'immunité, mais elle peut se manifester aussi chez une femme enceinte pendant le 13e trimestre de la grossesse, ce qui constitue, selon notre expert, un risque majeur pour l'évolution de la grossesse.
L'hépatite E n'est pas très très fréquente par rapport aux autres hépatites, mais ça existe. C'est une forme qui existe et les personnes à risque, c'est plus les personnes qui ont une diminution de l'immunité. Donc les gens qui ont le sida, les gens qui ont un cancer, par exemple, toutes ces situations qui diminuent la défense de l'hôte, donc de l'organisme. Mais les femmes enceintes aussi constituent aussi une autre catégorie à risque. De développer une hépatite B. Et d'ailleurs, pour la femme...
On parle de E.
L'hépatite E, excusez-moi, l'hépatite E. Et d'ailleurs, pour la femme enceinte, c'est généralement, ça donne des formes sévères. Ça c'est décrit... la contamination, d'abord, elle est oro-fécale aussi, comme pour le A. Les aliments souillés, les mains qui n'ont pas été bien nettoyées, qui ont été en contact avec des sels, et qui n'ont pas été nettoyés, tout ça. Mais il existe aussi une transmission de la mère à l'enfant durant la grossesse. Et très souvent, ça arrête même la grossesse. La transmission, c'est décrit des cas de transmission au troisième trimestre, qui donne une forme sévère chez l'enfant, chez le fœtus, et la grossesse, très souvent, elle s'arrête. L'évolution est aiguë, de manière générale. L'évolution est aiguë, on en guérit spontanément. Il n'y a aucun médicament. On en guérit spontanément après 4 à 6 semaines. Les symptômes, c'est exactement les mêmes pour les avec les autres hépatites aiguës. Donc, ça commence comme une grippe, on a de la fièvre, l'ictère qui vient, on peut avoir une douleur au ventre, essentiellement à la partie supérieure droite, donc on appelle l'hypochondre droit, donc dans la région du foie. Il existe des cas qui peuvent être sévères, mais beaucoup moins que le A, mais c'est décrit quand même des cas qui donnent une hépatite fulminante qui peut nécessiter une transplantation du foie. Parce que quand quelqu'un fait une insuffisance hépatique aiguë, l'une des voies les plus sûres pour sauver cette personne, c'est lui donner un autre foie. Bon, bien entendu, chez nous, on ne fait pas encore la transplantation, mais ça arrivera. Le traitement, c'est un traitement qui est symptomatique. On gère vraiment les symptômes que le patient présente. Il n'y a aucun traitement qui s'attaque au virus de l'hépatite E. Aucun.
Vous l'avez suivi, l'hépatite E peut se manifester sous une forme sévère chez une femme enceinte pendant le troisième trimestre de la grossesse, jusqu'au point d'être un risque réel pour l'évolution de la grossesse. Alors, y a-t-il moyen de prévenir un tel risque? Difficile, affirme notre expert, et pour cause.
C'est assez compliqué de dépister, parce que, de manière générale, elles n'ont pas des symptômes d'appel durant toute la période de l'incubation. Elles peuvent même contaminer quelqu'un sans que les symptômes ne se développent. L'incubation peut aller jusqu'à 6 semaines, 6 à 10 semaines même pratiquement, on dit. Ce n'est que quand la maladie, quand on a les symptômes, genre l'ictère, qu'en faisant la mise au point, que l'on peut maintenant tomber sur cette hépatite E. Et si, entre-temps, il y a déjà eu... déjà qu'il n'y a pas un traitement spécifique, on va le donner. Donc, le fœtus est vraiment... il est vraiment exposé puisque on ne donne pas un médicament qui va aller s'attaquer au virus, mais on gère les symptômes que la maman présente, tout en priant que l'enfant ne puisse pas être infecté. Si cela arrivait, c'est vraiment fatal pour l'enfant. Donc, lorsque les femmes font l'ictère au troisième trimestre, parmi les diagnostics que l'on recherche, c'est entre autres une hépatite E. Mais ce n'est pas l'unique cause de l'ictère. Au troisième trimestre, il y a d'autres maladies qui peuvent donner l'ictère, donc une jaunisse chez la femme enceinte. Mais on ne peut pas ne pas chercher les hépatites, toutes les hépatites, de A à E.
Après avoir parlé dernièrement des hépatites B et C, qui sont les plus fréquentes, nous avons aujourd'hui parlé des hépatites A, D et E, qui sont moins fréquentes mais qui existent bel et bien. Retenez qu'elles peuvent être évitées grâce à la vaccination pour certaines et pour d'autres, rien qu'avec de bonnes précautions d'hygiène. Mais avant de boucler ce chapitre sur les hépatites virales, suivons ce que nous dit notre expert, le docteur Ngoma Patrick. Nous rappelons qu'il est gastro-entérologue et président du conseil d'administration de la Fondation Aurore sur la prise en charge des hépatites virales en RDC et de leur prévention.
Les hépatites A, D et E se diffèrent essentiellement de la B et C par la chronicité. C'est le premier élément de différence puisque l'hépatite A évolue de manière générale en aiguë, de même que l'hépatite E, même s'il existe des cas rares de l'hépatite E qui sont chroniques. La prise en charge pour l'hépatite B et C, parce que c'est ça vraiment le problème de santé publique majeur, c'est possible parce que le traitement existe, il est disponible, il coûte un peu cher, parce que pour le B, il faut prévoir $50 par mois à peu près, parfois un peu plus. Pour le C, et ça c'est pour toujours, parce que le traitement du B, on sait quand on le commence, mais on ne sait pas quand on le termine. Mais pour le C, c'est un traitement de 3 mois, les traitements existent, mais ils coûtent assez cher. Il coûte assez cher parce que ça varie franchement autour de $500 par mois. Parfois un peu moins, c'est vrai, mais parfois plus. Là, ça dépend de la combinaison que vous avez. Si vous avez une combinaison fixe ou bien si ce sont des molécules qui sont séparées. Maintenant, pour l'hépatite E, beaucoup de laboratoires ne dosent pas déjà les anticorps de l'hépatite E, donc on ne tombe pas facilement sur ce diagnostic. À un moment, je sais qu'aux cliniques universitaires, on le faisait, mais je ne sais pas si on a encore les réactifs. Mais ça, en tout cas, avec l'avènement de l'actuel médecin directeur, le prof Makolo s'est battu, on dosait toutes ces hépatites en tout cas. On en guérit spontanément. Donc, comme il n'y a aucun traitement spécifique, aussi bien en Europe qu'ici, donc, si quelqu'un fait une hépatite E, bah, il va guérir. La même chose aussi pour le A. On doit beaucoup plus, et vrai ici chez nous, je pense, c'est par rapport à la prévention. C'est là que les gens doivent beaucoup plus œuvrer, parce que toutes ces hépatites peuvent être prévenues. Le A, l'hépatite A, l'hépatite E peuvent être prévenues avec une bonne hygiène. Déjà, rien qu'une bonne hygiène, ça diminue l'incidence de ces maladies. Parce que c'est une maladie un peu, entre guillemets, des mains sales, étant donné que la contamination est oro-fécale. Donc, si déjà on améliore l'hygiène chez nous, on lave régulièrement les mains, on se fait vacciner contre le A, par exemple, le A et le B, on est déjà bien. Et l'hygiène, ça ne coûte pas cher. Ça ne demande pas un investissement quelconque. Je crois que déjà avec la COVID-19, on prend de plus en plus l'habitude de laver les mains et que cela va rester et que ça va permettre de diminuer l'incidence et la prévalence des maladies liées aux mains sales. Je vais juste insister sur la nécessité de pouvoir connaître son statut par rapport à l'hépatite B et C. Au niveau de la Fondation Aurore, chaque vendredi, en tout cas, c'est consacré pour le dépistage. Donc, les gens peuvent passer à notre siège pour se faire dépister. Donc, pour l'instant, c'est encore gratuit. Nous sommes sur avenue Bypass, référence Are Salungo, entre Are Salungo et Are Abiti, bien entendu, commune de Lemba. Donc, le temps que c'est gratuit, les gens peuvent en profiter. Après, ça sera payant, puisque le fait de connaître votre statut vous permet de vous mettre à l'abri d'une cirrhose ou d'un cancer du foie. C'est difficile de savoir si vous êtes infecté, si vous n'avez pas fait le test. Donc, il ne faut pas faire la politique de l'Autriche, il faut se faire dépister.
Fin de ce numéro de Maïcha Bora des séjours sur les hépatites virales A, D et I. Merci à tous de l'avoir suivi. William Lungamba était à la mise en onde de Jean-Marc Matouek à la supervision. Au micro, c'était Marcel Ngomobala. À très bientôt.